哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
哒哒哒哒哒哒哒哒哒Une émission proposée et réalisée par le collectif Palestine 12. Ce mois-ci, entretien avec Brigitte Chaland.
Brigitte, bonjour. Très heureux que tu aies répondu à notre invitation, à l'invitation du collectif Palestine 12 et puis à Radio Larzac. Alors, est-ce que, en deux mots, tu peux un petit peu te présenter pour nos auditeurs ?
C'est toujours le plus difficile de se présenter. Mais bon, je travaille, je soutiens ce qui se passe en Palestine depuis maintenant assez longtemps, y compris pour y avoir été, en tout cas en Cisjordanie, et avoir vécu un petit peu à Gaza. Et donc voilà, c'est au titre de cette expérience-là, je crois que je suis là aujourd'hui, et notamment autour du travail que nous réalisons quotidiennement avec l'Union juive française pour la paix, qui est représentée également à Gaza avec une équipe coordonnée par Abou Amir Mutassem Elewa. Voilà.
Et puis tu es là aussi pour nous parler un petit peu de ce livre, cet ouvrage collectif, Gaza, mort, vie et espoir. Alors justement, moi ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est que donc c'est un ouvrage collectif. Alors bien sûr, la parole est donnée aux Gazaouis. Et là, leurs interventions sont signées. Il y a aussi deux préfaces. La préface d'Iman Maharifi, qui est une infirmière française qui a été à Gaza, ainsi que le docteur Pascal André, qu'on connaît bien ici à Millau. Alors eux, leurs préfaces, elles sont signées, mais tous les autres articles ne sont pas signés. Alors c'est une volonté, c'est histoire de s'effacer un petit peu devant les Gazaouis, leur laisser la parole.
Peut-être c'est les deux, à la fois une volonté et à la fois une façon de s'effacer. En tout cas, c'est un travail qu'on a fait donc ensemble à partir d'un groupe qui s'appelle le groupe Gaza, qui est donc au sein de l'Union juive française pour la paix, bien que nous ne soyons pas tous dans ce groupe à l'Union juive française pour la paix. Et disons que on a commencé dès le début à soutenir le travail de résistance et d'organisation de l'urgence qui pouvait se faire dans les camps de déplacés, dès le début, dès le mois d'octobre 2023. Et au bout d'une petite année, avec tout le travail accumulé, les comptes rendus, les réflexions, on s'est dit qu'il était important de témoigner de ça. Et effectivement, non pas de faire un travail sur Gaza, mais de faire un travail avec Gaza. Donc effectivement, une écriture ensemble, côte à côte, ce qui explique que la parole est largement laissée, en tout cas pour tout ce qui se fait en termes d'actes de résistance et d'organisation solidaire à Gaza pour Abou Amir et un petit peu pour Marcel au début du livre, et puis également d'autres témoignages. Après, de notre côté, c'est un livre qu'on a tous lu et relu à la virgule près, si je puis dire, discuté et réfléchi à la virgule près, même si effectivement, bien qu'il soit collectif, chacun de nous s'est attaché plus précisément à une partie du livre. Voilà. Alors, c'est un livre qui est paru en mai que je ne me trompe pas, 2025, et dont le travail, en fait, correspond à la période qui va de... même avant, puisqu'on parle de Gaza avant octobre 2023, au mois de mars-avril 2025, voilà.
Oui, bien sûr, on parle dans ce livre de Gaza un petit peu avant le 7 octobre. Il y a une phrase un petit peu qui est en exergue au début, c'est « Gaza est une société normale dans une situation totalement anormale ». Et justement, on montre un petit peu comment cette société, elle vivait. Et puis là-dessus arrive le 7 octobre. Et vous expliquez aussi, vous analysez pourquoi le 7 octobre, avec justement toute comme une énumération, enfin de tous les méfaits qu'ont pu produire le gouvernement israélien sur les Palestiniens en général et sur Gaza en particulier.
Oui, alors, deux choses. Gaza est une société normale dans une situation totalement anormale. Ça, c'est quelque chose, effectivement, quand on a vécu à Gaza, dont on se rend très vite compte. Toutes les choses se passent là-bas comme elles se passent ici chez nous. Que ce soit, par exemple, je prendrais, puisqu'il me concerne moi spécialement, la question de la maladie mentale, c'est exactement le même type de situation, le même type de symptômes, le même type de discussion, le même type de travail que ce qui peut se faire chez nous. Le travail associatif qui se fait à Gaza est démentiel par rapport au travail associatif qui peut se faire en Europe. Donc voilà, on découvre en fait en allant vivre à Gaza que c'est pareil, quoi, que le monde est pareil partout et que le monde appartient à tous les gens qui le composent et que la question de l'inégalité des vies et l'inégalité d'analyse sur les différents terrains du monde, c'est peut-être ça un des sérieux problèmes. Après, sur la deuxième chose, effectivement, on est en train de finaliser un teaser dont je parlerai peut-être à la fin, mais dans ce début du teaser, Abou Amir explique bien que le 7 octobre n'est pas venu de nulle part, que les choses n'ont pas commencé le 7 octobre. Et pour ma part, je pense, en tout cas en termes de réflexion, et de penser que c'est peut-être un des chapitres les plus importants dans le livre, c'est-à-dire de comprendre comment les choses arrivent, comment elles se nouent, comment elles existent, et plus que pourquoi finalement, mais comment. Et donc effectivement, ça prend une place importante dans ce livre, et c'est l'occasion de le redire à chaque fois.
Tu viens de citer Abou Amir, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette personne ?
Oui, donc à l'époque, en 2014, moi, quand je suis allée à Gaza avec l'association espagnole UNADICUM pour la protection des paysans le long de la frontière avec Israël, j'ai fait la connaissance d'Abou Amir à ce moment-là, qui travaillait déjà à l'époque avec l'association UNADICUM et qui nous permettait d'organiser à la fois nos venues le long de la frontière pour protéger les paysans, nos rencontres avec les différents mouvements associatifs, avec les différentes familles. Donc Abou Amir, c'est un citoyen de Gaza, un citoyen du monde de Gaza. Et donc après, à partir de 2016, effectivement, les choses ont commencé à se nouer plus précisément autour du soutien des agriculteurs de cette région, donc, qui est une région plutôt vers le sud, dans les villages d'Abassan et de Kouzaa, où le Mokhtar du village, le Mokhtar, c'est une autorité morale dans un village, hein, c'est quelqu'un qui est chargé de gérer les relations entre les gens ou les relations avec l'administration, avait dit à l'époque à nos équipes, si la solidarité veut dire quelque chose, c'est maintenant qu'il faut que vous fassiez quelque chose, à savoir permettre aux paysans de continuer leur travail. Non pas simplement les aider, mais permettre que le travail de la terre puisse exister. Et donc tout ce travail a commencé en 2016 et il a duré donc jusqu'en 2023 avant que tout soit détruit, petit à petit, d'abord avec la construction d'un château d'eau, puis avec la construction d'une maison des paysans, la construction d'une pépinière. Et c'est là qu'a commencer le travail qu'on retrouvera après, qu'on appellerait des groupes de soutien psychologique, des workshops avec les gens justement, et les paysans et les femmes à Gaza, pour travailler cette question de comment vivre dans un pays sous blocus, comment vivre dans un pays, comment résister et comment au quotidien faire dans un pays sous blocus. Donc les choses ont commencé là en 2016 et avaient vraiment pris corps puisque l'équipe se déplaçait dans toute la bande de Gaza du côté de la question agricole, même avec un agronome à l'époque, avant donc le 7 octobre, voilà.
Alors, quand on lit ce livre, même si on s'intéresse à la Palestine, à Gaza, si on s'y intéresse de près, on est quand même surpris. Moi, j'avoue que pourtant je connais un petit peu la question, mais j'ai quand même été surpris de voir tout le travail qui a été fait et qui continue à être fait, et notamment par l'intermédiaire d'Abou Amir, même s'il n'est pas tout seul. C'est incroyable, quoi. Comment, dans les conditions actuelles, c'est bon, bien sûr, il y a déjà le blocus, mais en plus, maintenant, il y a toute la pénurie, il y a la famine, il y a les intempéries. On va détailler un petit peu tous les secteurs où il intervient en lien avec le JFP. Mais c'est quand même hallucinant. Comment ils arrivent à faire tout ça?
Alors d'abord, on peut dire, je crois maintenant, que Abou Amir est le correspondant de l'Union juive française pour la paix à Gaza et qui coordonne des équipes. Des équipes qui sont composées de bénévoles, de semi-bénévoles et un petit peu de professionnels, en tout cas en ce qui concerne par exemple le domaine éducatif. Mais c'est vrai que tout ce qui a existé dans les années avant, qui est finalement un tissu de liens sociaux, un tissu de liens personnels et avec une règle peut-être de base qui est toutes les vies se valent, il n'y a pas d'inégalité entre les vies, première chose, et peut-être faut-il partir des gens qui ont besoin le plus, à qui il manque le plus pour pouvoir travailler. Ça a été vraiment une règle de départ. À partir de là, dès le mois d'octobre 2023, il y a eu une première réaction qui a été de faire en sorte que ces gens puissent vivre dans les camps, donc d'acheter des tentes, d'acheter des bâches. Alors maintenant, on en est au troisième hiver. Troisième hiver, ça veut dire re-acheter des tentes, re-acheter des bâches, parce que vous avez entendu parler des conditions météorologiques dramatiques qui ont eu lieu ces derniers temps là-bas. Donc, au jour le jour, au quotidien, arriver à écouter les gens, à savoir de quoi ils avaient besoin et à répondre à ces besoins.
Je voudrais que tu nous parles un petit peu de cette notion, cette solidarité. En accord avec toi, moi c'est pareil, le mot de résilience qui est employé à toutes les sauces, moi je l'aime pas du tout, parce que qu'est-ce que c'est que la résilience? La résilience, c'est quand c'est utilisé pour les matériaux, voilà, on tord un matériau, on relâche, et le matériau, c'est sa capacité à revenir à son état initial. Non, les Palestiniens, c'est pas ça, c'est pas, ils reviennent pas à leur état initial, ils vont au contraire, ils devancent, ils vont beaucoup plus loin. Et Il y a un terme qu'on emploie là-bas, c'est le soumoud. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qu'est le soumoud?
Donc on va laisser le mot résilience de côté, c'est un mot à la mode.
Complètement, on laisse de côté.
Voilà.
On préfère la résistance.
Et plutôt employer effectivement le terme de résistance. Et le soumoud d'ailleurs est développé au début du chapitre sur l'agriculture dans le livre. Il est développé notamment par un des écrivains de notre collectif qui est palestinien, qui est un agronome palestinien, Kamel. Et donc le soumoud, c'est vraiment la capacité à rester debout et à tenir bon. À tenir bon quoi qu'il arrive. Et effectivement, c'est quelque chose qui a énormément été travaillé. Travaillé comme on travaille la terre, comme on travaille une matière, comme on travaille notre propre personnalité, qui a été travaillé au jour le jour dans tous les ateliers de soutien psychologique. Donc voilà, c'est la capacité à rester debout, à rester en face de la situation, quelle que soit la situation.
Alors parlons un petit peu de ces ateliers de soutien psychologique, puisque c'est quand même un petit peu ton domaine de prédilection. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a été mis en place, comment ça fonctionne, y compris maintenant, quoi, avec toutes les difficultés qu'il y a?
Du coup, prédilection, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'à force de faire les comptes rendus hebdomadaires de cet atelier de soutien psychologique, parfois moi-même j'ai honte, venant du milieu d'où je viens, c'est-à-dire le milieu psychiatrique, de l'absence de travail que nous en Europe on peut faire maintenant sur ces questions-là. Bon, en tout cas les choses sont venues, donc je disais tout à l'heure, à partir du premier travail avec les agriculteurs, et actuellement Le point de départ, Abou Amir l'explique bien, d'une société, c'est effectivement la famille, et beaucoup de choses reposent dans une famille sur les femmes, que ce soit la relation avec les enfants, mais aussi la relation à la nourriture, enfin en tout cas la capacité à faire famille. Évidemment, il y a aussi les hommes qui font famille, mais en tout cas, pour la femme, il y a quelque chose de peut-être spécifique, enfin je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, c'est un autre débat qu'on aurait avec les féministes et que je suis tout à fait d'accord pour avoir, mais en tout cas la capacité à faire famille. Donc dès le début, et on le retrouve partout ça, dans tous les films qui sont diffusés sur Gaza ou sur la Palestine, la nécessité du soutien psychologique. Et actuellement, il y a au moins 3 ateliers de soutien psychologique organisés par semaine, qui regroupent chacun entre 25 et 30 femmes, et qui essayent d'abord de leur offrir un cadre sûr, un cadre de parole, un cadre de soutien et un cadre collectif, de se rendre compte que ce qui leur arrive, arrive aussi aux autres, et que peut-être en y réfléchissant ensemble, on peut faire différemment. Donc chacun des ateliers a un thème particulier, trouver sa force intérieure, comment réagir en cas de famine. Il y avait quelque chose qui était aussi sur l'auto-soin, c'est-à-dire comment se connaître son corps et pouvoir effectivement se soigner. Voilà, chaque fois il y a un thème spécifique développé par les animatrices et l'atelier se déroule avec des moments difficiles, des moments d'écoute, des moments de parole, des moments de pleurs, des moments d'émotion, des moments de travail, des propositions tout à fait simples. Par exemple, essayez chaque jour de prendre une minute pour vous. Une minute où vous ne pensez qu'à vous, où vous faites quelque chose que pour vous. C'est rien du tout, mais c'est des choses qui ont de l'importance dans la vie. Donc voilà, il y a ces ateliers de soutien psychologique pour les femmes, et même au plus fort de la guerre, en tout cas sur l'année 2024, les femmes avaient demandé à ce qu'il y ait des ateliers de soutien psychologique pour les hommes, parce que les hommes devenaient tellement difficiles à vivre dans la vie quotidienne, vu la situation de génocide, effectivement, elles avaient demandé à ce qu'eux aussi aient un lieu spécifique pour eux où ils pouvaient traiter de ces questions-là. Voilà, donc ça concerne tout l'aspect de soutien psychologique, et c'est peut-être, je crois, effectivement, une des premières choses à mettre en place. Après, il y a tout ce qui est l'organisation de repas, donc...
Pour en revenir au soutien psychologique, là, en discutant, là, tu nous avais donné un exemple. C'est les mères qui trouvent des subterfuges pour essayer que leurs enfants oublient la faim. Et tu peux nous donner cet exemple là de.
Oui, pendant. Vous savez qu'à un moment donné, après le. Je ne sais plus dans les dates, enfin il y a eu un moment où la famine a été vraiment organisée, où plus rien ne passait, où il n'y avait plus rien à manger, et où effectivement les mères ne savaient plus comment faire pour répondre à un enfant qui avait faim. Et dans cet atelier, moi qui m'avais beaucoup travaillé, enfin que j'ai travaillé et qui m'a aussi beaucoup travaillé, il y avait la question de que répondre aux enfants à ce moment-là. Et donc des propositions comme faire bouillir de l'eau pour que les enfants puissent entendre le bruit de l'eau qui bout, ou proposer à des enfants de rêver la nourriture. Et voilà, là on se dit, mais c'est, ça va quand même très très loin ce travail-là, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue même philosophique, pour organiser effectivement ce qu'il en est de la résistance.
شفيت ع بحر الميان شفيت ع بحر الميان لك أمان 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 هذا الشعاب نهار جديد رح يجي شفيت ع بحر المي عالمي اللي طيب شايف هذا الشعب جلني على طول وقت شفت ع بحر الميت عالمي اللي طيب تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم
احكي لك عن ذاك اليوم قالي دايما احلم به احكي لك عن ذاك اليوم قالي دايما استنى فيه قالي من شانو كفحنا طول العمر هاد اليوم جديد راح يجي عن قريب هذا مكتوب مهما يقولوا هذا مكتوب مهما يفكروا هذا مكتوب سوف نعود وارتاح يا فلسطين
شفيت ع بحر المي عالمي اللي طيب شايف هذا الشعب جلني على طول وقت شفت ع بحر الميت عالمي اللي طيب تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم
Voler nos terres, nos récoltes, nos paysages Souiller nos jardins, nos maisons et nos villages Insulter notre histoire, piétiner notre héritage Ils ont sali notre paradis avec des criages Ils ont blessé nos filles, nos sœurs et nos mères Ils ont tué nos fils, nos frères et nos pères Ils ont cru qu'on resterait soumis sans rien faire Ils ont cru que notre peuple allait se taire Grands, fiers, forts, dignes resteront Les enfants de Palestine, blancs, verts, rouges, noirs sont les couleurs de la lutte et de l'espoir. Même si le monde a décidé de rester sous silence, de rester sourd au râle de la souffrance, Palestine, Palestine, toujours résistera. Palestine, Palestine, jamais ne se rendra.
شفيت ع بحر الميت عالمي اللي طيب تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم
قديش سقطت القنابل فاقونا كل مطر قديش فكروا ان قوتهم اسقطتنا ما يفهموش ما رح نستسلم ابدا ابدا ما يفهموش ما رح نستسلم سوف يسقطون ما في جدار ما في جيش ما في حاجز لا يوقفونا ارض واحدة شعب واحد مصير الملايين هذه هي فلسطين
شفيت ع بحر المي عالمي اللي طيب شايف هذا الشعب جلني على طول وقت شفيت ع بحر الميت عالمي اللي طيب تعرف تعرف فلسطين ما بتستسلم تعرف تعرف
مهما كانت الجراح ومهما قعدوا خلي العديان يديروا ويعاودوا. عندي ثقة في هذا الشعب وفي ولادو. احنا كل يوم مصيرنا رانا نغنو. القمر يجيب احلام والشمس راها تدي. صح الايمان والامل مازال عندي. ملا تبسم من وجهك الدمعة محي. خطر مهما كان نهار جديد راح يجي ان شاء الله.
Alors justement, là, puisqu'on parle de nourriture, parle-nous un petit peu de ce qui est fait par rapport au repas, l'organisation des repas, la confection et la distribution des repas.
Donc le camp de base, si je puis dire, où travaille l'UGFP, c'est le camp des agriculteurs. Hein. On a parlé de ce travail agricole au début. C'est au moins 1800 familles. C'est donc le socle, voilà, je dirais le socle du travail. Donc dans ce camp-là, il y a 3 repas hebdomadaires qui sont faits et des repas d'une immense qualité, qualité culinaire en plus, enfin, c'est-à-dire avec tout ce qui est en plus dans un repas, c'est-à-dire à la fois les ingrédients, mais à la fois les épices, à la fois tout ce qui fait un vrai repas comme on les aime. Et puis, il y a aussi des repas distribués dans un autre camp, donc c'est 3 autres jours par semaine, ce qui fait en fait une semaine entière couverte avec des repas distribués et des repas, donc je le redis, d'une qualité culinaire importante, y compris pour le bien-être physique et corporel des gens. Voilà. Après, il y a l'école. Donc ça, l'école...
Ah, l'éducation en voilà. Palestine, c'est primordial.
Ben, c'est primordial, il n'y a pas d'analphabétisme en Palestine, c'est 0 et quelques, je ne sais pas combien. Tous les enfants vont à l'école, l'école c'est extrêmement important. Et donc ça a été à partir du mois de mai 2024, donc quelques mois après le début, se sont mis en place les écoles, enfin le travail éducatif. Donc au départ, dans le camp de... dans le socle de départ, dans le camp des paysans, et actuellement dans une école qui s'appelle l'école des premiers pas, qui est organisée dans le cadre d'un travail avec d'autres ONG palestiniennes, notamment le POD, Palestinian Organization Development. C'est 600 élèves de la du début, c'est-à-dire on va dire du CP jusqu'au baccalauréat. 600 élèves, 20 enseignants et 3 psychologues. C'est-à-dire à la fois un travail éducatif, à la fois un travail psychologique, à la fois un travail artistique. Et là, je ne peux que renvoyer les auditeurs, s'ils ont l'occasion, aux chroniques dont on donnera les liens peut-être à la fin. Mais un travail, par exemple, artistique a été fait avec une quinzaine d'adolescents qui sont allés sur une petite colline dans la zone où les Gazaouis ont le droit de vivre actuellement, c'est-à-dire ce qui reste 40% à peu près, hein, puisqu'Israël occupe le reste. Ils sont montés sur une petite colline avec des grands de bâches blanches et les enfants ont dessiné la guerre. Ils ont dessiné la guerre et franchement, cette vidéo... elle est extrêmement forte, voilà. Donc je peux qu'inviter les gens pour dire que, mais même dans les ateliers de soutien psychologique, il y a des moments de chant, des moments de danse, des moments de détente. C'est-à-dire que le bien-être fait aussi partie de la vie et dans le cadre de l'école, ça existe aussi. Après, il y a tout le travail de réparation des tentes qui sont malmenées, qui sont de l'apport de bâches, tout le travail de désinfection, de désinsectisation, parce que bon, c'est pas une vie de vivre depuis 2 ans et demi dans des camps de toile, hein, en plus complètement saturés, quoi. Un travail aussi de soutien avec les pêcheurs. Il y a un travail assez spécifique de relations qui s'est nouée, y compris depuis 2016, avec le milieu des pêcheurs. Il y a un camp de pêcheurs et en général, il y a l'apport de vêtements pour les enfants. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui se font. Et la réponse, au jour le jour, parfois, à des demandes particulières. Donc, c'est un boulot abattue par les équipes, qui est absolument extraordinaire.
Il faut dire que la situation des pêcheurs de Gaza, elle est terrible. Quoi. Il y a plus aucun bateau. Tout a été détruit. La flottille a été détruite, les installations portuaires rasées. Ils sont interdits de pêche. C'est catastrophique.
Mais la population de Gaza, avant 2023, les pêcheurs, c'était la population la plus pauvre. La plus pauvre, puisqu'ils avaient pratiquement plus de zones de pêche. Et actuellement, mettre un pied dans la mer à Gaza, c'est être susceptible d'être tiré par les Israéliens. Hein. Donc on a des camps au bord de la mer, mais on n'a même pas le droit de mettre un pied dans la mer. Voilà. Donc oui, effectivement.
Oui, tu parlais justement là des problèmes d'hygiène. L'UGFP a... J'ai vu qu'elle avait, j'ai découvert dans le livre, qu'elle avait installé des sanitaires, là où ils peuvent au maximum essayer d'avoir un système, tant bien que mal, d'évacuation des eaux usées. Enfin, c'est énorme comme travail.
Ben oui, ça a été la première chose. C'est-à-dire, vous mettez des centaines de personnes qui habitent ensemble sous des tentes, et comment vous faites? Et on fait bien pipi et caca tous les jours. Donc, il faut trouver des solutions à ça. Donc, effectivement, ça a été une des premières missions que de s'occuper de l'installation de sanitaires, de développement des eaux usées. Et sachant que tout ça est mis à mal dès qu'il y a une tempête ou dès qu'il y a des pluies, à tout qui déborde. Enfin, bon, voilà. Mais effectivement, ce sont des choses basiques pour l'organisation d'une vie collective. Et je pense aussi à ce que je n'ai pas dit dans le travail quotidien, c'est le soutien des agriculteurs. C'est-à-dire que dès septembre 2024, et ça c'est très très important, les agriculteurs ont demandé à pouvoir retravailler leurs terres, là où c'était possible bien sûr, là où il restait des dounoum, puisque c'est la mesure, l'unité de mesure à Gaza. Donc pouvoir replanter, pouvoir avoir des plants, des semences, et ça existe. Et ce travail-là également a été soutenu, a été mis en place. Replanter, cultiver, ramasser, s'occuper de forage, s'occuper d'eau, s'occuper de... Tout ce travail-là a été fait aussi et est consultable au jour le jour dans les chroniques.
Est-ce qu'on peut dire un mot justement de l'eau, qui est vraiment l'élément essentiel à toute vie?
Ben, l'eau à Gaza, c'est une catastrophe. Enfin,
Mais c'est pas nouveau. Voilà. Et c'est pas nouveau, ça.
Non. Moi, quand j'étais en 2014, l'eau qui sortait du robinet, c'était pas question de la boire, quoi.
Moi, j'étais en 2001, déjà l'eau était saumâtre.
Non. Et puis, les puits ont été détruits. Enfin, non, c'est une catastrophe. Donc là, effectivement, il y a tout un aspect désalinisation, donc des machines pour faire ce travail-là. Et puis, un aspect aussi assainissement. Enfin voilà, c'est sûr que les Israéliens qui sont à quelques kilomètres ont pris toute l'eau, oui bien sûr.
Mais à l'époque où il y avait encore des colonies israéliennes à Gaza, je me souviens que l'eau était déjà saumâtre, parce que les colonies puisaient, chacun avait sa piscine bien entendu, ils puisaient dans la nappe phréatique, et la nappe phréatique s'est appauvrie, et à ce moment-là l'eau de mer s'est infiltrée et c'est irrécupérable. En général, quand une
nappe phréatique... Elle rentre, c'est pour ça que je parle de désalinisation. Enfin, oui, actuellement, oui. C'est ça qu'ils sont obligés de faire, bien sûr.
Je crois qu'il y avait des installations de désalinisation qui ont été détruites, bien sûr, qui ont été bombardées. Voilà. Et puis alors, il y a une photo, on voit pas bien parce que l'avion est tout petit, mais enfin bon, il y a la légende. Je trouve ça terrible. C'est que bon, les paysans, ils essayent de tant bien que mal de remettre en route des cultures. Et il y a des avions israéliens qui font de l'épandage d'herbicides sur leurs cultures.
Oui, ça c'est ce qui se passait effectivement avant 2023. Enfin moi quand j'étais en 2014, combien de matins en arrivant sur les cultures, les Israéliens avaient reculé la barrière de séparation et avaient brûlé toute la récolte de blé, par exemple. Enfin, ça a été du non-stop. Donc, oui, voilà. Mais ça, c'était la situation de blocus à l'époque.
Ah oui, mais ça a commencé bien avant.
Terrestre, aérien et maritime, voilà.
Il y a un aspect aussi qu'on n'a pas abordé, enfin, un petit peu par le biais de la psychiatrie, mais enfin, c'est la santé en général, quoi. Et il y a un chapitre dans le livre, c'est, je crois d'ailleurs que c'est un article d'Abou Amir qui dit le crime absolu, quoi, s'attaquer aux hôpitaux.
Eh oui.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui au niveau infrastructure, au niveau des hôpitaux à Gaza ?
Alors, il y a des choses qui se sont remises en place. Hein. Il y a des choses qui existent maintenant, puisqu'effectivement, dans les derniers articles qu'il a envoyés, il parle des blessés, puisqu'il y a, vous le savez, hein, les violations du cessez-le-feu sont permanentes. Donc, voilà, les bombes sont permanentes, ça continue. Et donc, il parle récemment, dans un des derniers papiers, des hôpitaux saturés. Donc, il y a quelques hôpitaux. Alors, il faudrait que je regarde dans mes papiers précisément pour vous dire, mais il y a 3 ou 4 hôpitaux qui sont encore en fonctionnement, ou des hôpitaux de campagne, comme on dit, qui ont été remis en place. Voilà, c'est ce qui existe actuellement, mais à la moindre... De toute façon, c'est une médecine de guerre. Enfin, c'est...
Oui, parce que j'ai vu qu'il parlait, par exemple, pour les prématurés, il y a eu des installations qui ont été remises un petit peu en route, mais ça reste quand même très, très précaire, quoi.
Ah ben, c'est très précaire. Je crois qu'il faut... qu'on ait conscience qu'on est en 2026, on a souhaité la bonne année à tout le monde, et je crois que l'année 2026 va être une année décisive pour la Palestine.
En général, Palestine.
En général, Gaza et Cisjordanie, année décisive pour que la situation tourne, quoi, que la situation change, parce que là, la situation est effectivement catastrophique, le cessez-le-feu n'est pas respecté, la deuxième phase n'arrive pas et n'arrivera peut-être jamais, les conditions et les perspectives sont très très noires, donc c'est une injonction qui est horrible, mais en tout cas, l'année 2026 politiquement sera décisive pour l'avenir du Moyen-Orient, l'avenir de Gaza et l'avenir de la Cisjordanie. Donc à nous, peuple de France, peuple du monde, comme dit Zacharia dans un petit film, de réagir.
Et je voudrais bien qu'on parle du soutien au gouvernement israélien des grandes puissances de l'Occident. Bon, bah, ça, on connaît un petit peu. Ce qu'on connaît un petit peu moins, même si on a une petite idée, c'est la position des pays arabes. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose rapidement
Bon, rapidement, ça va être difficile, mais il y a tout un chapitre dans le livre qui est extrêmement développé sur la question.
Absolument.
Mais bon, comme dit souvent Abou Amir, les pays arabes sont lamentables, les États, mais les peuples non. Mmh. Voilà, donc c'est encore une fois cette différence entre les gouvernements, enfin les États, et les peuples. Et je crois que dans le livre, c'est effectivement assez détaillé, toute la question du soutien justement des gouvernements arabes à ce qui se passe et à l'avenir politique, si je puis dire, de ce qui est en train de se tramer effectivement.
Est-ce que tu penses que l'Égypte va ouvrir la frontière de Rafah ?
Mais moi, je ne sais pas ça. Je ne sais pas ce que je sais. Ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, la position... en tout cas israélienne, c'est oui, ouvrir Rafah pour que les gens s'en aillent, pour que les gens sortent. Parce que ce qui est en train de se dessiner, en tout cas du côté de la coalition Israël-États-Unis, c'est faire sortir le maximum de Gazaouis. Ça, c'est aussi développé dans un des derniers articles d'Abou Amir, faire une espèce de ville verte, là, une ville sécuritaire du côté de Rafah, et avoir au centre un pays, enfin une zone dont personne ne s'occupera et qui restera dans une situation très très dégradée, et tout le reste, effectivement, occupé par Israël et par... Donc, moi, là, je ne peux que vous renvoyer, je crois que, prise un peu au dépourvu, je ne peux que vous renvoyer sur les articles qu'écrit Abou Amir tout au long des semaines, et peut-être à ce moment-là, donner les différents sites des chroniques pour que les gens puissent
Bien sûr, on va le donner et on le mettra sur le site de l'émission. Peut-être pour terminer, je voudrais lire un tout petit passage qui est dans le livre. Hein. C'est l'importance de la question palestinienne. Il est dit « Soutenir le peuple palestinien, c'est défendre les droits de tous, c'est se battre pour un monde vivable, fait d'égalité des droits, de vivre ensemble, de respect. C'est refuser le colonialisme, le suprémacisme, la domination et la barbarie. La défaite de la Palestine, ce serait une défaite de l'humanité. »
C'est quelque chose qui terminera le clip, enfin le teaser qu'on est en train de faire. Si on recule là-bas, encore et encore, c'est le monde entier qui reculera. Si on gagne en Palestine, c'est le monde entier qui gagnera. Voilà. Donc, sur 4 sites, vous pouvez trouver des comptes rendus de toutes les actions qui sont faites donc, dans la bande de Gaza par l'équipe de l'UGFP et qui sont faites à partir de la collecte de l'UGFP qui s'appelle Urgence Guerre à Gaza, à laquelle je ne peux que vous proposer de participer. Donc les différents sites, c'est le site de l'UGFP, ugfp.org, c'est le site du Point, le Point avec un G à la fin, donc sur l'agora du Point, et le site de ISM France, International Solidarity Movement. Après, il y a également un article hebdomadaire, cette fois-ci, sur le site de altermidi.org. Et donc, j'en ai parlé, je crois, au cours de l'entretien. On est en train de finaliser un teaser vidéo d'à peu près 5 minutes qui permettra à tout le monde de voir la réalité de ce qui est organisé à Gaza avec la collecte, d'écouter ce que nous en dit Abou Amir et d'être au plus près, finalement, de cette invention d'une forme de vie beaucoup plus humaine que celle que nous propose le monde d'aujourd'hui.
Alors, on peut peut-être redire hein, donc la collecte pour Urgence Guerre à Gaza. Vous pouvez aller sur Hello Asso. Sinon, si vous préférez soutenir par un moyen plus traditionnel, c'est-à-dire par chèque, il vous suffit d'écrire à l'UJFP, 21 Terre rue Voltaire, 75 011 Paris, et vous mettez bien au dos de votre chèque « Urgence guerre à Gaza ».
Merci pour cet entretien, Daniel. Et on peut rappeler que Brigitte Chaland est co-autrice d'un ouvrage, Gaza, mort, vie, espoir, aux éditions Rive Neuve. Tu peux nous en reparler un petit peu, s'il te plaît, Brigitte ?
Ce livre, on l'a écrit à 6. Sarah Katz,
membre de l'UGFP.
Membre de l'UGFP. Pierre Stamboul, membre de l'UGFP. Béatrice Aurès, membre de l'UGFP. Et Moutassem Elewa, dit Abou Amir, membre de l'UGFP. Kamel Elias et Brigitte Chaland.
Qui est agronome.
Oui, je le disais dans l'entretien, qui est un agronome palestinien et moi-même. Donc voilà, on est 6 ou 7, du coup, je...
Plus tous les témoignages
des
Gazaouis qui sont dans
qui
le
sont
livre.
Qui sont à l'intérieur du livre, voilà.
Merci beaucoup, Brigitte. Nous avons été très heureux de te recevoir. Et puis, on espère une prochaine fois.
Merci à l'Aveyron. La da 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 da
Yeah. Banana.